Alors, mon étape suivante, c'est donc de vous parler des amis du réveil. Où est-ce qu'il est, mon plan? Ah, il est là. Voilà. Alors, voilà, on va parler maintenant de vraiment cette société des amis, Boss, Tempeta. Alors, rien de tel que de vous parler de l'un ou d'un autre, ça vous donnera l'image un peu de... Voilà, alors parlons d'Empeta. Donc, qui est né en 1790, à 14 ans, il est déjà troublé dans sa conscience, à la pensée de la sainteté de Dieu. Il en sent, lui, une sensibilité, un éveil à une interpellation divine. Et comme le disait Louis, finalement, le réveil, tout comme Luther ou Calvin, ont été la conjonction de personnages qui ont été éveillés dans leur conscience, et puis qui ont trouvé les conditions sociales, économiques, psychologiques et sociologiques telles que cet éveil a pu se traduire par un événement de société. Empeta, comme je vous l'ai mentionné, il fonde cette réunion d'édification, connue sous le nom de la Société des Amis. Le consistoire le menace, puisqu'il fréquente des assemblées religieuses, et alors il n'a pas peur de cette menace, il préfère poursuivre dans ses convictions, ce qui fait qu'il est rayé de la liste. Et c'est lui qui, en novembre 1818, adressera ce pamphlet à ses collègues. Alors je vous en lis quelques lignes, hein, quelques lignes. « Messieurs et chers collègues, vous êtes l'espérance de la patrie renaissante. C'est à ce titre que je viens vous ouvrir mon âme sur un objet digne de la plus sérieuse attention. Nos malheurs, ainsi que ceux de l'Europe, ont été le triste résultat de l'oubli des principes religieux et du mépris des institutions chrétiennes. » On ne se paye pas de mort à cette époque-là, c'est impressionnant. Mais bon, il faut se rappeler qu'on sort, donc là il est en 1816, novembre 1816, on sort des drames quand même de l'épopée napoléonienne. Pour nous, il y a eu tant de guerres entre deux qu'on se souvient peut-être pas assez que l'épopée napoléonienne a saigné l'Europe et a provoqué des milliers, des dizaines de milliers de morts et des chambardements sociaux dramatiques. Donc on peut comprendre cette phrase d'Empeta. Je saute. Il est consolant pour tout bon genevois attaché à sa patrie et à la croyance de ses pères de voir avec quel zèle, quelle sagesse nos respectables magistrats travaillent à nous ramener à nos anciennes habitudes et à faire refleurir parmi nous l'empire de la religion et des bonnes mœurs. Je pense qu'il fait allusion à la Restauration, tout simplement, où on tourne la page de la révolution honni par la bonne société genevoise et on s'achemine vers une restauration. Nous en avons des gages bien précieux dans tous les actes émanés de leur autorité, dans les règlements pour la sanctification du dimanche. C'est vrai que Napoléon avait instauré une semaine de 10 jours, qui était une manière pour lui de sauter les dimanches. Et il avait instauré une année de 10 mois. Je ne sais pas si ça avait une oui. Oui. Consistoire. Mais Napoléon était entré dans ce... Enfin, c'était dans l'air du temps. Tout à fait. Bref, ensuite il parle des arrêts du Conseil d'État sur la police des cafés, des billards et les ordonnances somptuaires sur les bals, etc. Et la protection soutenue qu'ils accordent à la vénérable compagnie des pasteurs. Donc, on commence son texte par l'estime qu'il doit à la société de l'époque. Que manque-t-il, messieurs, pour compléter l'œuvre de notre génération? Il faut bannir de notre sein les doctrines nouvelles et les systèmes humains qui sapent par les fondements l'édifice divin du christianisme. suivent 50 pages dont je vous fais grâce, qui attestent de l'importance de la divinité de Jésus-Christ. Alors vraiment, il a une plume vigoureuse qui montre que nier la divinité de Jésus-Christ, c'est complètement saper l'Église. Alors, il espérait réveiller l'Église en écrivant son texte. Il espérait créer un mouvement de spiritualité qui renouvelle l'enseignement de l'académie. Petite parenthèse, c'est vraiment Genève qui est visée là. Lausanne n'a pas été touchée par des courants libéraux rationalistes comme Genève. Pas du tout. Très curieux. On était à 60 km, mais l'académie de Lausanne n'avait pas du tout le même courant. Ce qui fait que les besoins et la situation n'étaient pas la même. Bref, réaction de l'académie, le règlement, ou de la compagnie des pasteurs, le règlement qui est là. Et c'est évidemment une réaction qui a surpris tout le monde. La compagnie des pasteurs de l'église de Genève, pénétrée dans le sentiment d'humilité, de paix et de charité chrétienne. Donc on est vraiment là dans l'envie de faire quelque chose d'honorable. Et convaincu que les circonstances où se trouve l'église, confiée à ses soins, exige de sa part des mesures de sagesse et de prudence, arrête, sans porter aucun jugement sur le fond des questions suivantes, et sans gêner en aucune manière la liberté des opinions, de faire prendre soit aux proposants qui demanderont à être consacrés au Saint-Ministère, soit aux ministres qui aspireront à exercer dans l'église de Genève les fonctions pastorales, l'engagement dont voici la teneur. Nous promettons de nous abstenir tant que nous résiderons et que nous prêcherons dans les églises du canton de Genève, d'établir, soit par un discours entier, soit par une partie du discours dirigé vers ce but, notre opinion. Donc nous promettons de nous abstenir de prêcher sur la manière dont la nature divine est unie à la personne de Jésus-Christ, sur le péché originel, sur la manière dont la grâce opère, ou sur la grâce efficiente, sur la prédestination. Et c'était sérieux, c'était pas rien, j'entends. C'était sérieux. Donc, tout ce qui tenait à cœur aux évangéliques, aux révivalistes, tout cela était contesté, mis au banc, mis à banc du pastorat de Genève, des autorités suprêmes du pastorat de Genève. Alors, cette mesure qui se voulait être pacifiante a évidemment eu l'effet contraire. Elle a alors provoqué la colère, provoqué les démissions en masse, et puis provoqué la fondation de la première église autonome. Et alors, là, Genève s'est vraiment déchirée, entre-déchirée. Ça a été qu'une succession, il y en a des piles et des piles de lettres, de contre-lettres, de pamphlets, de contre-pamphlets, pour les pour, pour les contre. Mais c'était pas triste, c'était vraiment une époque extrêmement profitable pour les imprimeurs.
Vous rappelez que c'était moins de 30 ans après la Révolution
française. Oui, tout à fait. Et puis, tu veux dire quoi particulièrement par ça?
D'accord. Quelque chose après ces temps de Turquie.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, aussi.
En même temps que le roi.
C'est vrai, oui.
Ceux qui avaient un pouvoir ecclésiastique 30 ans avant risquaient leur peau, quel que soit.
Ah, c'est là qu'il y a eu des milliers de prêtres qui sont morts.
Proche de la France,
oui, oui.
C'est moins de 30 ans après la Révolution.
Oui, c'est bien. J'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Donc voilà, alors on fonde la nouvelle église. Et là, j'ai vraiment envie de vous lire un long texte que je ne vous ai pas donné, mais qu'à le relire, je le trouve extrêmement intéressant parce que ça me paraît vraiment la quintessence de l'état d'esprit du réveil. C'est un texte écrit par Gers, qui fait la biographie de Pitt. C'est sympa, là, entre copains, on se fait des biographies pour se soutenir. Gers était celui qui a peut-être été le plus... Il était J'ai pas mis ses dates. Ah oui, 1882. C'est-à-dire que Pitt est décédé très jeune. Pitt, vous trouvez la biographie de Pitt dans... C'est l'occasion de faire la publicité pour les productions de la Faculté de théologie de Vaud. Donc, dans la dernière numéro de théologie évangélique, vous avez la biographie de Pitt. Donc, vous avez la photographie ici, enfin, photographie, on se comprend. Voilà. Qui est un homme étonnant, j'entends, des revivalistes, des hommes qui payent de leur personne, qui vont courir la France et la Navarre pour évangéliser au prix de leur vie. D'ailleurs, c'est très concret, j'entends, quand je dis au prix de leur vie, ils en sont morts. Neff est mort à 32 ans, et Pitt est mort à 39 ans. D'avoir tellement donné, c'est remarquable. Alors, la biographie de Pitt, Pitt est donc né dans le canton de Vaud, et puis il a fait ses études à Genève, et il est parti comme évangéliste. Pitt n'a jamais été vraiment impliqué dans cette église indépendante, il n'y a eu pas, c'est un peu leur lieu de rassemblement, mais il n'a jamais été impliqué en tant que tel. Par contre, Ampeta, voilà. Alors, je vous lis. Donc, c'est la biographie de Gers qui parle de Pitt, oui. C'est ainsi que se forma la petite église de Genève, et si l'on aime mieux, c'est ainsi que l'église de Jésus se manifesta de nouveau dans la cité bénie. Un peu radical, hein, mais bon, d'accord. Devenue malheureusement à cette époque le principal centre de l'unitarianisme en Europe. Tel a été le premier signal donné sur le continent de la séparation du peuple de Dieu d'avec le monde. La séparation du peuple de Dieu par avec le monde. Alors ça, c'était un thème récurrent pour la jeune Église et pour tout le mouvement du réveil. Où placer la séparation? Où placer la limite? Comment la comprendre? Comment être à la fois séparé et témoin? Comment être à la fois évangéliste et incarné dans le monde? Ça, c'est une problématique très forte. Le Seigneur se servait encore une fois des choses faibles pour confondre les fortes, de celles-là même qui ne sont point pour renverser celles qui sont. Faisons remarquer, en passant, le caractère de l'œuvre à laquelle s'est dévoué Pitt et ses amis. Ce n'était pas un simple retour au principe de la Réformation, comme l'affirmaient ceux qui croyaient les outrager en les appelant calvinistes. Retourner à Calvin après être tombé si bas, c'eût été fort beau. Mais ce qui valait encore mieux, c'était de faire ce qu'avait fait Calvin. C'était de retourner à Jésus-Christ et aux apôtres, et d'y retourner pour toute chose, autant du moins que le permettait l'état général du royaume de Dieu. Un peu présomptueux quand même. Personne ne peut ignorer son père, spirituel ou matériel, ou physique, donc on est tous les héritiers de quelqu'un. Mais voilà, il ressentait cette espèce de retournement. Barthes aussi, à un moment donné, dit que la théologie marche sur la tête et il faut maintenant la remettre sur les pieds. Donc, c'est pas les... Tout le monde a pensé à un moment donné vivre un retournement. Et il le pensait de manière tellement intense qu'ils l'ont exprimé dans ces termes-là. Voilà ce que, dans leur faiblesse, ces jeunes gens tentèrent. Voilà ce qu'ils osèrent, appuyer sur le Tout-Puissant. Ils avaient compris qu'en ce qui regarde les formes d'Église, le milieu dans lequel elle se meut, les réformateurs n'avaient jamais eu la pensée de la fixer, de la river sur place, de la couler, pour ainsi dire, en bronze, dans le moule de leurs institutions, qu'ils avaient inauguré ou restauré la liberté, et qu'en la servilité romaine, ils n'avaient point entendu substituer une servilité de leur façon. La profonde vénération que leur inspiraient les docteurs du XVIe siècle n'avait rien de superstitieux, rien de bigot. Ils croyaient les honorer plus en les imitant selon leur faible mesure qu'en les calquant. Et de même que, tout en se réclamant de saint Augustin, par exemple, les réformateurs n'en avaient cependant appelé comme autorité qu'à la parole de Dieu eux-mêmes, tout en se réclamant de Calvin, ne voulant non plus fonder leur foi que sur Christ et les apôtres. Jeunes à tous égards et simples de cœur, ils comprirent ce que les docteurs ne comprennent pas toujours, ce que l'eau n'est nulle part si pure qu'à sa source. Et c'est aussi là que le Saint-Esprit les conduisait. Ils repoussaient le joug des traditions humaines, protestante ou romaniste, l'imitation servile ou stéréotypée des églises du XVIe siècle, et le cléricalisme leur apparaissait comme un château fort de Satan dans la chrétienté. Il leur avait gratuitement été donné de croire à la présence du Saint Consolateur dans l'Église, de comprendre et de réaliser le sacerdoce universel des chrétiens, le ministère spirituel, de ne vouloir d'autres robes sacerdotales que la justice du Rédempteur, d'autres missels que le livre des psaumes, d'autres disciplines et d'autres constitutions ecclésiastiques que les actes et les épîtres des apôtres, d'autres liturgies enfin que celles à l'aide de laquelle tout l'âge primitif avait prié, à savoir le Saint-Esprit, soulageant de la part de Dieu nos infirmités, soupirant dans la Bible et dans nos cœurs, intercédant en nous par toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Mais d'autre part, chez eux, nous voulons le dire à la gloire du Seigneur, aucune manie d'innovation, aucune prétention surtout de se poser devant leurs frères comme la congrégation modèle, comme le point de ralliement des enfants de Dieu. On leur a plus tard reproché, comme à d'autres, d'avoir voulu recommencer l'Église. Jamais pareille folie ne leur monta à l'esprit. Nulle autre ambition chez eux que d'imiter, dans la mesure du possible, les premières communautés chrétiennes. Rien d'étroit, à leur début surtout, rien de sectaire, mais les dispositions les plus largement fraternelles. L'union des frères, tel était pour eux le but. La séparation n'était que le moyen ou la conséquence. Puis aucune contradiction sous ce rapport entre la profession et la conduite. Si depuis on a pu dire à une autre classe de croyants « Votre théorie est bien la communion des saints, votre pratique l'est-elle aussi ?» cette parole n'aurait pu leur être adressée. Je relis, hein. Si depuis on a pu dire à une autre classe de croyants guillemets, « Votre théorie est bien la communion des saints et votre pratique ne l'est pas », cette parole n'aurait pas pu leur être adressée. Rien d'agressif dans la marche de Pitt et de ses amis à l'égard des autres catégories de chrétiens, mais un besoin réel de demeurer attaché à Christ et à tout son corps. Ils avaient pressenti l'Église, l'Église professante, et s'ils se gardaient de l'identifier avec le monde des appelés et des baptisés, ils n'en faisaient pas davantage la société des élus. Aussi, par une faveur insigne de Dieu qui les menait de jour en jour par la main comme de petits enfants exposés à leur inexpérience aux plus fâcheuses aberrations, tout en fuyant l'extrême du multitudinisme, furent-ils mis à l'abri du sectarisme. S'ils élevaient une barrière, c'était dans leur intention, du moins, entre le monde et l'Église, entre l'hérésie et la vérité. La seule pensée de la placer entre frères et frères les eut remplis d'horreur et leur eut apparu comme un attentat contre Christ. Vous avez compris cette première difficulté colossale à laquelle l'Église a été confrontée quand il s'agit de passer à la théorie de la constitution de l'Église. C'est une chose que de parler de Jésus, c'est une autre chose de parler de la manière dont les frères, les sœurs vont vivre les uns avec les autres, se reconnaître les uns et les autres. Voilà. Je vais aller de l'avant et parler maintenant peut-être d'autres figures qui seront dans cette catégorie-là, celles que j'ai appelées les autres figures. Et puis, on tombe là sur un texte que vous avez. César Malan. César Malan est né à Genève en 1787. Il est né d'un père instituteur, dans un milieu social aisé. Il fait des études en belles-lettres, passe une année à Marseille pour ses études. Il doit remplacer un pasteur pendant quelques mois, un pasteur qui a dû s'absenter, et le pasteur demande à César Malan, jeune étudiant, de lire en chair des sermons. Parce que César Malan n'a pas le droit de les composer, bien sûr, mais il doit seulement lire des sermons en chair. Ça lui plaît, ce qui fait que finalement il se décide de devenir pasteur lui-même, donc il rentre à Genève pour faire des études de théologie. Il était consacré dans l'église genevoise en 1910. C'est là, on peut lire un 1810, merci. Et là, on peut lire un texte que vous avez sous les yeux. Lorsque je fus consacré dans l'église de Genève en 1810, j'étais dans la plus profonde ignorance de la vérité telle qu'elle est en Christ. Je demeurais dans ces ténèbres jusqu'en 1814, époque où je commençais à croire que le Seigneur Jésus est Dieu. Dans les premières années de son ministère, se place en effet un incident, comme il plaît souvent à Dieu d'en produire dans la vie de ses meilleurs serviteurs. Malan était allé prêcher dans un village du canton de Vaud. Et là, il cite l'auteur Gédéon Sablier, cite de nouveau Malan. « Au sortir de l'église, le pasteur vint à moi d'un air triste et sévère, et me dit d'abord que ces mots. « Monsieur, il m'a paru que vous ne savez pas que pour convertir autrui, il faut d'abord être converti soi-même. Votre sermon n'est pas chrétien, et j'espère que mes paroissiens ne l'auront pas compris. » Savoureux. Paroles salutaires. Ce furent-elles et tout ce que ce fidèle serviteur de Christ y joignit ensuite, qui me firent comprendre ce qu'est en effet un chrétien. Pas mal, hein, de, comme dialogue entre confrères. Bien, alors, Malan vous décrit sa conversion, et je suis content de l'avoir, de vous le proposer, puisque mes prédécesseurs ont aussi proposé des histoires de conversion. En voilà une aussi. Un jour, que je lisais l'évangile à mon pupitre dans la classe, parce que Malan, après avoir été suffragant, a été nommé directeur d'une école, ou responsable d'une école, ou aumônier d'une école à Genève. C'est pour ça qu'il était au pupitre dans sa classe. Pendant que les écoliers faisaient un devoir, c'était l'après-midi, je lus le deuxième chapitre des Éphésiens, et quand j'arrivais à cette parole, « Vous êtes sauvés par grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le livre me sembla lumineux, je fus si vivement ému que je dus sortir dans la cour du collège où je marchais en m'écriant « Je suis sauvé, je suis sauvé. » Voilà. Pour une fois que quelqu'un ne se convertit pas en lisant les Romains. Très bien. Alors, Malan donc se convertit. Lui aussi a eu des contacts avec Aldan, que j'aimais comme un père, disait-il. Aldan que j'aimais comme un père et qui m'enseignait plus exactement dans la voie de Dieu. Et ça, c'était en 1817. Donc, voilà, à peu près après la célèbre règlement de la compagnie des pasteurs que nous avons lu ensemble. Alors, évidemment, Malan ne souscrit pas à ce règlement, ce qui fait que Malan est suspendu de ses fonctions. Et Malan a réellement un don de prédicateur tellement remarquable qu'il rassemble des gens autour de lui. 50, 80, 100, 150 personnes. Et puis, bon, tout naturellement, à partir d'une foule pareille, il construit une église. Malan a toujours déploré cette forme de sécession, enfin, cette forme de ce séparatisme par rapport à l'Église nationale, il n'a jamais voulu. Mais voilà, de fait, c'est en fait la compagnie des pasteurs, c'est les autorités de l'Église qui l'ont écarté. Et alors, pour répondre à la soif spirituelle qui était autour de lui, Malan a construit dans le jardin de son église, dans son jardin, sa propriété, l'église de Pré-l'Évêque. Il avait été sollicité comme pasteur dans l'église de Bourdefour. Et il a refusé. Il a senti que l'ecclésiologie de Bourdefour était trop indépendante, trop sécessionniste. Et Malan a rattaché son église à l'église presbytérienne d'Écosse. Il a toujours déploré le fait d'avoir été coupé de l'église de Genève. Et une chose assez étonnante, au moment où il est mort, quelques mois avant sa mort, Mala a fait détruire le bâtiment qu'il a construit dans son jardin. C'est tout un symbole. Je ne veux peut-être rien dire d'autre au sujet de Malan, si ce n'est de vous inviter à vous lever. Je vais inviter Liliane à se mettre au piano et nous allons chanter un cantique du réveil. Alors, le réveil, bien sûr, c'est les cantiques. À peine que je vous écoute et que vous me disiez un peu les émotions que vous avez ressenties en chantant ces chants. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fort quand même. Et surtout, si on se souvient que du contexte, sans exagérer, j'entends les gens qui chantaient ça, ben, ils risquaient le lendemain d'être emprisonnés. Ils risquaient en tout cas qu'on leur casse la baraque, qu'on se moque d'eux et qu'on les traîne. Le pasteur qui a fondé Saint-Loup en particulier, peut-être j'aurai le temps d'y arriver, il est mort en exil en 1825 à Nîmes. Puis il avait 28 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'il était exilé. Il n'a pas fondé Saint-Loup en tant que tel, mais il a été l'un des inspirateurs de ce mouvement. Donc on risquait quelque part sa carrière, en tout cas, d'être évangélique à ce moment-là. Bien, Malan donc fonde cette église en 1820. Dans cette église, 10 ans plus tard, déjà une division. 1830, c'est la scission dans cette église. Un tiers d'église du témoignage s'en vont au bourg de Fourbes. Et Malan s'est jamais remis, en fait, de cette blessure-là. En tout cas, au niveau ecclésial. Au niveau de sa personnalité, de son ministère, c'est ce qui a peut-être ouvert pour lui un rayonnement quasiment européen, puisqu'il développe une immense activité en France, en Angleterre, où il va quasiment toutes les années, en Allemagne, ça devient un prédicateur itinérant, un missionnaire de la parole, ça devient un écrivain, un dogmaticien, bref, un grand personnage, mais au point de vue ecclésial, finalement, comme je vous l'ai dit, son église va se perpétuer jusqu'à ce qu'il déménage lui-même à Vendeuvre. Et puis, quelques mois avant sa mort, il demande sa démolition. Voilà. Parlons de Félix Neff. Félix Neff, alors, quand j'ai travaillé sa personnalité, là, j'en étais très touché. Félix Neff, il naît en 1797. Son père est voltairien. Et son père va vivre à Paris, donc Neff est quasiment abandonné par son père, et il est éduqué par sa mère qui prend un soin particulièrement tendre de lui. C'est un enfant intelligent, éveillé, doué, précoce. À 17 ans, il s'engage à l'armée, il devient sergent, reconnu pour ses compétences, et en 1818, le sergent Félix Neff doit intervenir dans une bagarre contre les momiers. Place un peu le contexte, donc on se bat à Genève contre les momiers, et Félix Neff est furaxe contre ces momiers qui troublent l'ordre public, et Félix Neff dira plus tard que j'avais décidé, si j'en voyais un, de lui planter mon épée dans le corps. Et puis il fait le geste en plantant son épée dans un talus tellement qu'il trouvait inadmissible ces fauteurs de troubles. Bref, il les appelle des gredins ces momiers. Le 7 août 1818, Félix Neff rencontre Gontier et Gers dans l'arrière-magasin du père de Gers. Finalement, c'est Gontier et Gers qui, ayant vu ce sergent, trouve que ça vaut la peine. Ben voilà, l'esprit missionnaire de témoin qui anime s'est réveillé. Il trouve que ça vaut la peine de le contacter et dialoguer avec lui. Et Neff leur dit, « Messieurs, je vous avais méconnu. Maintenant, je suis des vôtres. » Que s'est-il passé? Neff le rappellera ainsi plus tard. Je cite Neff. « Monsieur Malan avait été, par la grâce de Dieu, l'instrument de ma conversion, en ce qu'il s'était donné la peine de venir me chercher au corps de garde pour me donner des traités qui, me trouvant déjà fort occupé de mon âme, m'avait en peu d'heures fait connaître le grand mystère de la rédemption. Enef avait été touché par un traité qui s'appelle « Le miel découlant du rocher ». Et d'ailleurs, il a annoté ce traité, et maintenant ce traité est soigneusement conservé, on l'a retrouvé, annoté de la main même de Neff. Alors, Neff, en 1818, toujours soldat, se joint à la communauté du Bourg-de-Four, est bouillant, il saura faire l'évangélisation, il préside ce qu'on appelle des assemblées d'appel, c'est-à-dire des assemblées d'évangélisation où on invite les gens à, on les appelle à la conversion. En 1819, Neff est libéré de l'armée et comme il est bouillant, il a une âme d'évangéliste, il parcourt toute la Suisse, il va à Moutier où Bost est pasteur. Les premières années de l'église du Bourg-de-Four, Bost a été tenu un peu à l'écart parce qu'il était pasteur à Moutier. C'est là que Neff le rejoint. Et puis, il prêche l'évangile. J'ai tenu, en novembre 1820, 13 assemblées publiques dans 7 villages différents, écrit Neff. Et souvent, elles étaient composées plus de la moitié de la population du lieu. Je visite les chrétiens. D'une réunion de jeunes filles, Neff écrit ceci. Nous passâmes l'après-midi à chanter des cantiques et à avoir des conversations édifiantes. Elles s'attendaient bien à être tensées d'importance au retour, quand on saurait d'où elles venaient. C'est-à-dire ces jeunes filles s'attendaient bien à être sermonnées parce qu'elles fréquentaient les réunions de Neff. Leur frère, le frère de ces jeunes filles, sont les plus acharnés contre elles, aussi bien que les autres jeunes gens de la commune, parce que ce qui anime ainsi les garçons de ces villages, c'est de voir se convertir les jeunes filles qui sont alors perdues pour le bal et les soirées sans fête. L'incidence du comportement moral, avait une incidence immédiate dans une société où finalement on était très, très solidaires les uns des autres. C'était pas du tout la société individualiste telle que nous la connaissons actuelle, mais les choix spirituels avaient immédiatement une implication sur le comportement. Neff revient à Genève pendant une année il est pasteur de l'église indépendante au Bourg-de-Four où Gers et Gontier avaient aussi été pasteurs. Puis Neff s'en va à Grenoble pour remplacer un pasteur. Là, il a des impressions variées. Il dit que Grenoble... Il y a des gens de Grenoble ici. Quelle horreur. Neff dit ceci. Grenoble est-elle un cimetière où je ne me sens aucune force, aucun courage pour prêcher? Je suis dans cette chair froide comme de la glace. Ensuite, il va en banlieue de Grenoble, où il pratique quelques baptêmes, ce qui ne plaît pas du tout au pasteur. Et puis ensuite, Neff est invité à Mans par le pasteur Raoux, qui lui demande de le remplacer quelques mois, et il y a un réveil qui éclate à Mans. J'ai vraiment pas le temps, mais en 1822, ça vaudrait la peine de lire les pages et les pages qui parlent du réveil de Mans. Bon, c'est une ville un peu à une quarantaine de kilomètres de Grenoble. C'est ça, dans ce grand massif que nous parcourons tous quand on veut descendre pour des vacances au bord de la mer en prenant la route du col de la Croix-Haute. Eh bien, Neff est bouillant, alors évidemment, chaque fois qu'elle réveille, ça provoque de l'enthousiasme, mais en même temps, ça provoque de grandes oppositions. Alors, quelque part, pour des jalousies ou autres, il est chassé de Mans. Entre-temps, Neff aura été à Londres, où il reçoit la consécration, et je vous ai donné le texte de la confession de foi qu'il fait en rapport avec sa consécration. Neff aura développé ce qu'on appelle un christianisme expérimental ou pratique. ou dit autrement, un christianisme spirituel, intérieur et pratique. C'est ce qui caractérise le réveil. C'est ce côté, cette dimension immédiatement très concrète de l'évangile. On ne peut pas penser l'évangile sans le traduire en fait concret. Alors, ça vaut la peine de lire cette confession de foi. Je ne vais peut-être pas le faire avec vous puisqu'elle est sous vos yeux, mais faites-le. Sachez qu'au retour de Londres, Neff est nommé dans les Hautes-Alpes. Si on ne veut pas le voir de retour à Mans, par contre, on lui offre un service dans des endroits mais totalement perdus et complètement abandonnés des Hautes-Alpes, où Neff développe un service social tout à fait remarquable. Il instaure des écoles, il fait venir des enseignants, il préside à la formation des enseignants, il s'occupe d'agronomie, il donne des conseils pour les plantations de pommes de terre, il crée des canalisations, il creuse des canalisations d'adduction d'eau, il collecte de l'argent pour venir au secours d'un village incendié, un incendie naturel, mais c'est un village catholique, peu importe, il faut secourir tous les pauvres qui ont été touchés par cet incendie. Bref, dans les régions de Fraissinière, d'Ormioz, ça veut dire c'est autour du massif de la Vanoise, c'est dans la Vanoise, comme ça que ça s'appelle, n'est-ce pas? Autour de la barre des écrins, enfin c'est le 4000, vous avez la grande ville, pardon, la Meije, oui bien sûr, et puis Briançon, voilà, dans la région de Briançon, où il fait un travail social tout à fait remarquable. Une énergie, quelque chose d'éblouissant, mais qui va le tuer. Qui va le tuer parce qu'en fait il rentre à Genève en 1827, il est malade et il ne s'en relèvera pas. Oui.
Le Félix Neff, Benjamin Bolloton a écrit tout un livre.
Oui, oui.
Extrêmement intéressant, tout en une langue.
Je crois, oui, oui. Je te remercie. Oui, c'est bien. Ben, au moment où on donnera les références, tu pourras rajouter. Bien, le temps passe. Il faut juste que je parle de Mère d'Aubigné. Alors, donc, c'est vrai que le réveil n'a pas produit des grands théologiens à la mesure d'un Calvin ou d'un Luther, mais il a produit des hommes de toute grande valeur et qui ont eu le souci d'être des relais et des docteurs en théologie, et de telle sorte que face au dénuement de Genève, on a donc ouvert cette école de théologie en 1832. Et cette école de théologie est l'émanation de toute l'Europe. Si cette école a existé, c'est grâce au duc d'Orange, c'est grâce à la noblesse française, grâce à la noblesse allemande, qui a littéralement tout payé pour la constitution de cette école. C'était une question de venir au secours quelque part de Genève, qui, bon, ben les années ont passé, mais la Compagnie des Pasteurs et l'Académie de Genève n'avaient absolument pas évolué dans sa théologie, ce qui fait que tout le courant piétiste, tout le courant évangélique, tout le courant de réveil, je ne sais pas si le mot évangélique était déjà consacré à ce moment-là, là, je n'ai pas fait une étude, enfin tout le courant du réveil avait le souci de le valoriser, donc on ne peut pas valoriser un mouvement sans prévoir, veiller à la formation de ses ministres. Alors, on est allé chercher Merle d'Aubigné, qui lui est aussi un genevois, qui lui a aussi fait sa théologie à Genève, qui lui a aussi rencontré Aldane, qui était marqué par Aldane, mais six mois après sa consécration, Merle d'Aubigné est parti en Allemagne, où il a été pasteur à Hambourg pendant 5 ans, puis ensuite il était pasteur à Bruxelles pendant 8 ans, et c'est à Bruxelles qu'on est allé le chercher. Alors, pour vous faire un peu apprécier cette littérature, je vous ai mis 2 pages de Merle d'Aubigné. En fait, il s'agit de la leçon inaugurale de 1840. sur le titre « Les miracles ou deux erreurs ». Alors, j'ai le texte intégral ici. En fait, vous devinez bien que les deux erreurs en question, ce serait d'un côté nier les miracles ou d'un autre côté séparer les miracles de l'essence du christianisme. C'est ce que dit Merle d'Aubigné. Nier les miracles, c'est tomber dans le rationalisme. Séparer les miracles de l'essence du christianisme, c'est s'approcher de la superstition. Et puis, alors, il développe très longuement toute sa théologie des miracles. Et ce qui est à relever dans ce que je vous ai donné, c'est qu'il rattache le miracle à Jésus-Christ, bien sûr. Oui, le grand miracle, c'est Christ. Voyez à la page 20. La parole éternelle faite chair. Le grand miracle, c'est la communion rétablie par Dieu, même entre Dieu et l'homme coupable. C'est la vie éternelle rendue aux pécheurs. Et plus loin, la naissance de Jésus est donc le premier de ses prodiges. Il est le plus grand miracle de l'humanité. Et on comprend facilement que tout autour de ces miracles, qui mettaient le ciel en rapport si intime avec la terre, se trouvent rangés d'autres faits surnaturels, qui sont comme les rayons de la gloire de cet Orient d'en haut, venus dissiper l'ombre de la mort. Je vous invite à lire, bien sûr, le texte dans son ensemble. Le réveil. Quelques mots pour finir de l'esprit même du réveil. Et là, nous allons lire ensemble quatre citations que vous avez à côté de la page bibliographie. Le réveil, dit Alexandre Binet, a réhabilité la doctrine du Saint-Esprit et par là redonné une substance à ces mots, depuis longtemps vides et morts, de régénération et de conversion. Ces mots devenus des idées puissantes en ont ranimé, éclairci plusieurs autres. Dès lors, le christianisme a formé une chaîne dans la pensée, une chaîne dans la vie, et s'est montré impérieux et pressant à l'égard de l'une et de l'autre, la pensée et la vie. Alors bon, Binet a été évidemment un grand théologien du réveil. Binet est plutôt rattaché à Lausanne, bien que son rayonnement ait été marqué très nettement aussi à Genève. Et Binet est plutôt rattaché aux Églises libres, mais cette citation, vous voyez qu'elle date de 1837, donc on est encore en plein dans l'époque du réveil. Le réveil est un effort du christianisme vers sa source, vers une compréhension plus ample du système évangélique, vers une application plus rigoureuse et plus étendue des principes chrétiens à la vie humaine. Le réveil donne un sens nouveau au mot de conversion, qui ne signifie plus une progressive et partielle réforme des mœurs, mais une résurrection de tout l'homme, arraché à la plus radicale de toutes les erreurs et rendu à la plus fondamentale de toutes les vérités. Il y a des expressions qui sont très fortes là. Je pense qu'elles ont tout leur poids. Et puis, la dernière citation vient d'un auteur qui, paraît-il, est libéral lui-même, mais qui a écrit sur l'histoire de la prédication protestante. Et je pense que c'est un bon moyen de clore les éloges du réveil. Il était nécessaire de déchirer le voile qui couvrait les consciences et de balayer ces idées étriquées qui ôtaient à l'évangile sa saveur et sa vertu. Il fallait secouer du sommeil moral cette génération assoupie et la faire trembler sur son état réel. Il fallait relever l'idée de la sainteté, tant celle de Dieu que celle de l'homme, et les présenter dans leur auguste pureté aux yeux prévenus qui les réduisaient l'une et l'autre à un étrange minimum. C'est là ce que fit la prédication du réveil. Quelle secousse donnée aux consciences! Quel cri accusateur! Il y a comme de la tempête dans cette prédication, comme un bruit d'armée lancée en avant, courant sur l'adversaire, faisant sa trouée avec audace. Les choses passées, les choses vieilles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je vous ai parlé de la fin du réveil. vous expliquer ce que je pensais de cette expression. Il faut quand même que je la mette. C'est sur la feuille que vous avez, non? Mais bien sûr, voilà, c'est la feuille que vous avez. Alors c'est Boss lui-même qui écrit en 1854, c'est la médiocrité qui me semble caractériser le réveil depuis déjà bien des années. Le réveil que j'ai vu naître, si pur, si désintéressé, si directement dirigé vers le royaume des cieux, si plein de renoncement et si spirituel, mais qui est devenu depuis longtemps affaire d'église et d'administration, affaire de comité, affaire de professeurs et d'orateurs, affaire d'argent et de collecte, affaire surtout de prudence, de ménagement, d'élégance, de philosophie, de sagesse mondaine et d'une fausse charité, tandis qu'on en a bien peu de vrai, peu ou point de renoncement, peu d'amour, peu de joie, presque pas d'élan, un certain zèle pour la bonne cause peut-être, mais comme on en trouve aussi chez le mondain pour les objets qui plaisent, rien qui ressemble à ce qu'on pourrait se représenter comme un baptême du Saint-Esprit. Ce jugement est sévère, c'est Maury qui dit ça. Ce jugement est sévère, on n'oserait pas dire qu'il est complètement injuste. Ce que nous pouvons en inférer, c'est qu'en 1850, l'ère du réveil est bien close. Carte, un historien du réveil, a dit ceci. Alors lui, il parle de l'ancienne dissidence. L'ancienne dissidence existe-t-elle encore? On peut répondre hardiment non. Mais que reste-t-il actuellement dans le canton de Vaud des églises disciplinées, c'est-à-dire des églises marquées par le réveil? Des débris dans quelques localités, des résidus des anciens troupeaux à Rol, ou depuis la mort Auguste Rocha, merci. Il y a des déviations dans un sens plus exclusif au Brassu, où le type primitif s'est conservé avec le plus de pureté, à Concise ou plutôt à Corcelles. Mais la dissidence elle-même a réellement pris fin, et on la retrouve nulle part sous sa forme primitive. Elle a dû céder sur plusieurs points à l'action prépondérante des Darwistes. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un drame. Et il a fallu vraiment que je me plonge dans l'histoire du réveil pour réaliser combien le darwisme a été vraiment une calamité. Alors je prie, s'il y a des darwistes parmi nous, de bien vouloir m'excuser, mais une calamité. J'allais dire dans le canton de Vaud, c'est mon canton, mais un peu partout. Et ces concessions ont rompu le lien déjà relâché qui autrefois faisait d'elle un ensemble ecclésiastique assez compact. Plusieurs des éléments de l'ancienne dissidence sont allés au méthodisme wesleyen, quelques-uns à l'église libre naissance, le plus grand nombre au darwisme, en particulier l'église de Lausanne. Quant à ses espérances, ce résidu n'en a pas. Il vit modestement, sans aucun esprit de prosélytisme pour se recruter, mais quand une âme vient à lui, il l'accueille, et quand il le peut, il l'évangélise, soit par des réunions d'appel, soit par des courses missionnaires entreprises par quelques frères. Voilà. Bon. Alors, je vais en rester là. Alors, ce jugement est quand même sévère. On sent que dans ce jugement, il y a beaucoup de tristesse, parce que c'était des pionniers. C'est vrai qu'il y a eu des drames. C'est Auguste Rocha, ce pasteur dont je vous parlais avant, Juvet, d'autres pasteurs qui ont payé leur personne pour Chavannes et tant d'autres, qui ont payé leur personne pour ces nouvelles églises, qui ont été bannies, qui ont été rejetées de leur rôle de pasteur, et puis qui finalement se voient rejetées à nouveau de leur communauté parce qu'elles adoptent l'idéologie darwiniste. Donc ça a été une raison pour les phrases relativement amères que je vous ai lues. Heureusement que ces phrases ont été écrites en 1854, de telle sorte que nous savons que la grâce de Dieu s'est prolongée très nettement, et de telle sorte que les mouvements qui ont été, les communautés qui ont été absorbées par le darwinisme, se sont graduellement, et c'est un mouvement qui se perpétue, détachés du darwinisme pour être restitués à un mouvement de réveil, de telle sorte que nous vivons toujours maintenant à l'heure actuelle, et que le souffle de l'esprit se prolonge de mille manières. Voilà, je vais en rester là. Si vous avez quelques questions, j'y répondrai volontiers. Excusez-moi d'avoir débordé de 12 minutes.